Bonjour à vous et bienvenue dans le 168e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Bulleur vous propose toutes les deux semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Bobigny 1972, titre passionnant qui revient sur le combat pour la légalisation de l'IVG, un album que l'on doit à Marie Bardiot-Vaillante pour le scénario, Carole Morel pour le dessin et qui est édité chez Glénat. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants. Deux sœurs, le nouvel album du duo Isabelle Sivan au scénario, Bruno Duhamel au dessin, un titre à retrouver aux éditions Grand Angle. Je parlerai ensuite de l'album Les Dinosaures du Paradis, dont vous devinez déjà de quoi il sera question. C'est un album que l'on doit à l'auteur Mazan ainsi qu'aux éditions Futuropolis. J'aborderai aussi la sortie de l'album 20 décembre, Chronique de l'abolition, que l'on doit au scénario d'Apollo, au dessin d'ETM et que publient les éditions d'Argo. Ensuite, je vous parlerai du 5e et dernier tome de Saint-Elme, un titre baptisé Les Thermopyles, que l'on doit au scénario de Serge Lehmann, au dessin de Frédéric Peters et aux éditions Delcourt. Je vous présenterai une histoire originale, celle de L'Expert, album que l'on doit à l'autrice d'origine allemande Jennifer Daniel, ainsi qu'aux éditions Casterman. Enfin, je terminerai par la réédition du superbe album La Bombe, dans une version collector où chaque planche a été retravaillée. Pour rappel, c'est un titre que l'on doit au scénario de Didier Alcante et Laurent-Frédéric Bollet, au dessin de Denis Rodier, et qui est publié chez Glénat dans la collection Millefeuille. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Dans l'épisode de cette quinzaine, je vous propose de revenir sur un procès historique. Un procès qui a défrayé la chronique et qui a ouvert le débat, un procès qui va se dérouler à Bobigny en 1972, donnant au passage le titre à cet album. Au départ, c'est une jeune femme que le tribunal se permet de juger, une jeune femme de 16 ans, une certaine Marie-Claire Chevalier, à qui l'on reproche d'avoir avorté dans une société qui vient à peine de rendre légale la contraception et qui culpabilise les femmes dès lors qu'elles réclament un peu de liberté. Le contexte est important car il sert de toile de fond à cet album. Ce contexte est d'ailleurs abordé de manière plus ou moins explicite. Nous sommes alors dans une France qui est en train de changer, mais dont certains membres freinent des quatre fers pour éviter ces mutations. Mais revenons-en à Bobigny 1972 et à son scénario que nous devons à Marie Bardiot-Vaillante, elle qui s'intéresse à la chose judiciaire puisqu'elle avait déjà proposé il y a quelques années l'album L'Abolition, un titre qui suit le combat de Robert Badinter pour mettre fin à la peine de mort en France. Avec Bobigny 1972, elle nous fait plonger dans ce procès resté célèbre qui, sous couvert de juger une jeune femme de 16 ans, va devenir le procès de la loi qui interdit aux femmes de disposer de leur propre corps et d'avorter librement en France. Les hommes n'y occupent d'ailleurs pas le beau rôle, à commencer par un certain Daniel, petit voyou de la banlieue parisienne qui, pour échapper à la justice, va dénoncer aux policiers une jeune femme dont il sait qu'elle a eu recours à l'avortement clandestin. Il ouvre l'album, mais on le découvre aussi un peu plus tard dans l'histoire, il est le responsable de l'avortement que va subir Marie-Claire quelques mois auparavant, il l'a invité chez lui à écouter des disques avec ses amis et transformer ce rendez-vous en traquenard avant de violer la jeune fille. Les violences que font subir les hommes aux femmes se matérialisent aussi par cette absence de loi pour encadrer l'avortement en France, une absence de loi surtout préjudiciable aux femmes précaires, car les bourgeoises peuvent se faire avorter à l'étranger, en Angleterre par exemple. Heureusement, dans cette histoire va naître une solidarité féminine, une lutte qui va prendre divers visages, comme la naissance de l'association Choisir, ou encore le fameux Manifeste des 343, déjà évoqué dans ce podcast, avec un album sorti en 2020 chez Marabule. Une autre femme va jouer un rôle considérable, une jeune avocate, qui va laisser son nom à la postérité, une certaine Gisèle Halimi, dont le portrait esquissé nous fait comprendre pourquoi c'est un combat qui lui tient tant à cœur. Le scénario qui nous entraîne au tribunal permet, par un effet d'aller et retour dans le temps, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire et de découvrir les multiples protagonistes qui seront appelés à la barre. C'est là qu'intervient le dessin de Carole Morel, ce dessin si doux et généreux, tout en virtuosité, pour reprendre les mots de la scénariste, un dessin qui permet non seulement de redécouvrir une histoire forte, mais aussi de passer un très bon moment de lecture. Les pages légèrement jaunies et voilées marquent les moments du passé, quant à la scène centrale du viol que va subir Marie-Claire, elles sont noires, glaçantes, empreinte de cette émotion que Carole Morel sait si bien rendre. Sous ses crayons apparaissent aussi les grandes figures qui ont défendu la cause des femmes à l'époque, de la journaliste Françoise Giroud, qui rend compte des débats, à l'intellectuelle Simone de Beauvoir, dont la phrase célèbre sur la fragilité du statut de la femme en cas de crise ouvre l'album. C'est d'ailleurs là aussi que ce titre veut en arriver, dans un monde où le droit à l'avortement est remis sans cesse en question, dans des démocraties aussi solides que les États-Unis, il n'est pas inutile à travers cet ouvrage de rappeler la violence que peut représenter pour les femmes l'absence d'une telle législation. De ce point de vue, la bande dessinée sait faire émerger l'émotion chez ses personnages et donc la provoquer chez le lecteur, tout comme elle repose au centre de l'histoire les raisons de la nécessité d'avoir une telle législation. Alors oui, Bobigny 1972 est un titre qu'il faut absolument lire, un album qui s'adresse à toutes les générations, aux femmes comme aux hommes, car le droit à l'IVG concerne tout le monde et sa fragilité demeure plus que préoccupante. Album passionnant, certainement un album militant aussi, Bobigny 1972 est mon gros coup de cœur du moment, un titre paru chez Glénat le 10 janvier dernier, une bande dessinée qui fait 192 pages et que je recommande vivement. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Pour commencer, je vais vous parler de deux sœurs, à la fois titre de cet album, mais réalité que l'on retrouve aussi tout au long des 72 pages de cette bande dessinée originale que souligne déjà la couverture de l'ouvrage. Dans cette grande bâtisse posée au milieu d'un quartier résidentiel, vivent donc ces deux sœurs, toutes deux célibataires, et chacune de leur côté, car en réalité les deux femmes ne s'apprécient guère comme on le découvre très rapidement. D'ailleurs, on découvre tout aussi rapidement que cette grande maison qu'habitent les deux sœurs est séparée en deux, un mur permettant d'offrir à chacune un espace privatif auquel l'autre n'a pas du tout accès. À gauche vit la blonde Lise, femme de son temps qui travaille dans la finance et conseille ses amis sur les placements financiers à faire, femme qui aime entretenir son jardin et se tourne vers la méditation zen. À droite, cheveux longs et lunettes sur le nez, on retrouve Camille, elle est le contraire de sa sœur, enseignante, elle a un côté baba cool, joue de la musique et possède un chat qui répond au doux nom de Nefertiti. Le décor est planté dès les premières pages, mais ces deux sœurs qui se détestent vont être confrontées à une nouvelle qui va les toucher toutes les deux de la même façon, la vente à venir de cette grande bâtisse où les deux frangines cohabitent mais ne se croisent pas. Cette vente pourrait bien rapprocher les deux, d'autant qu'elles ont un intérêt commun à se mettre d'accord dans cette affaire, mais est-ce que les antagonismes ne sont pas déjà trop profonds pour réconcilier les deux sœurs ? Voilà la question que pose l'album en son centre. C'est ainsi que de page en page, avec un dessin judicieux où la symétrie permet de bien matérialiser cette situation, nous voyons Camille et Lise évoluer avec cette distance qu'elles mettent entre elles, mais que ne symbolise pas ce lieu. Puisque nous parlons du dessin, c'est Bruno Duhamel que l'on retrouve au crayon et au pinceau, un dessin qui fonctionne en miroir et qui donne beaucoup de caractère à cet album, qui fut quand même une petite prouesse technique. Comme sur Le Voyage d'Abel, réédité en 2020, c'est Isabelle Sivan qui lui a taillé ce scénario, un scénario simple et efficace pour une histoire dans laquelle nombre de lectrices et de lecteurs pourront se retrouver. Deux Sœurs est un titre qui est aussi édité chez Grand Angle, comme pour la collaboration précédente des deux artistes, un album sorti le 17 janvier dernier et que je vous conseille vivement. C'est un voyage passionnant dans l'univers de la paléontologie que nous invite à faire Mazan dans son nouvel album paru chez Futuropolis et baptisé « Les dinosaures du paradis », sous-titré « Naissance d'une aventure paléontologique ». Plus jeune, Mazan vouait une véritable passion pour cette science qu'a mis en lumière il y a quelques années le film Jurassic Park, une passion qui l'a rattrapé pas très loin d'Angoulême, comme un signe que bande dessinée et exhumation de dinosaures allaient se mélanger dans son nouveau projet. Nous sommes alors en 2010, au moment où Mazan prépare une exposition commune avec Isabelle Detang et Julien Maffre au musée de la bande dessinée, exposition baptisée Planches et hiéroglyphes, qui met en lumière l'Égypte dans la bande dessinée. À la recherche d'une momie qui viendrait enfoncer le clou de la belle scénographie de cette exposition, il va découvrir qu'au musée d'Angoulême sont conservés de vieux fossiles de dinosaures qui ont été découverts tout près de la cité du 9e art, une découverte qui va entraîner Mazan dans une drôle d'aventure. D'une prospection qui débute à Angeac-Charente, cette aventure va entraîner notre auteur jusque dans les forêts du Laos pour un voyage qu'il nous raconte ici en 224 pages d'un ouvrage passionnant. Sur le site de prospection, au milieu de bénévoles, Mazan se pique du virus de la fouille de dinosaures et commence à utiliser les instruments sur place pour creuser et tenter d'extraire cette civilisation lointaine qui a laissé des traces en nombre dans ce coin de la France. S'adressant à un large public n'y connaissant pas grand-chose à la paléontologie, ni même à l'histoire des dinosaures, il prend le temps d'expliquer les différentes ères qui nous ont succédé, ainsi que la façon dont ces grosses bêtes sont devenues avec le temps des fossiles que nos contemporains viennent déterrer pour comprendre comment ils ont vécu et comment ils ont fini par disparaître. C'est ainsi que de fil en aiguille, qu'au gré de ses rencontres et de cette passion qui prend de la place, Mazan va se retrouver convié à participer à une grande fouille qui va durer un mois et demi au Laos, aventure racontée dans la deuxième moitié de l'album. Mélangeant ses dessins, pris sur le vif, avec bien des difficultés qui sont racontées ici, avec des photos, il offre au lecteur une véritable immersion, donnant l'impression d'être en compagnie de cette petite bande qui prospecte dans la forêt laotienne. Voyage dans le temps, dans l'espace et aventure humaine au contact de civilisations éloignées, Les dinosaures du paradis est un titre qui parle autant de ces lointains habitants de la Terre que des civilisations qui la peuplent aujourd'hui. Véritable coup de cœur, à plus forte raison parce que le sujet des dinosaures me passionne aussi, cet album arrivé en librairie le 21 janvier dernier est une lecture aussi indispensable parce qu'on y apprend une multitude de choses que parce qu'elle sait mettre en avant ce qu'il y a de plus intéressant chez l'homme. Quand commence l'album 20 décembre du duo Apollo au scénario et TM au dessin, nous sommes sur l'île Bourbon et l'on découvre cet ancien monde du début du 19e siècle où l'esclavagisme a encore cours sur ce territoire de l'océan Indien. Pour un rien, les esclaves peuvent se faire battre par les gros propriétaires terriens, voire même se faire tuer sans que la justice n'ait à redire quoi que ce soit. Après tout, ils ne valent guère plus qu'un simple meuble. Mais en cette année 1848, les choses s'apprêtent à changer, sans forcément d'ailleurs qu'elles ne règlent tous les problèmes, mais au moins des milliers d'hommes et de femmes qui vont avoir une identité vont pouvoir choisir leur destinée. 20 décembre est un titre qui fait référence à une date malheureusement trop méconnue en France, celle du 20 décembre 1848 qui voit la naissance de l'île de la Réunion, le nouveau nom que porte l'ancienne île Bourbon. 20 décembre, c'est aussi le nom symbolique qu'aurait aimé porter Edmond, le héros de notre histoire, jeune esclave qui vit chez le propriétaire Bélier, un propriétaire bienveillant et paternaliste, mais pas au point de l'affranchir ni de l'instruire. Edmond Albius est un homme qui a réellement existé et autour de qui le duo d'auteurs brode une histoire qui fait aussi intervenir des personnages fictifs, histoire tout en nuances qui nous raconte le passage d'un état à un autre, celui d'esclave à celui d'homme libre. C'est ici tout l'enjeu de cet album, montrer comment s'est faite cette transition sur cette île dont la fin de l'esclavagisme n'a pas réglé tous les problèmes que pouvaient connaître les anciens esclaves. En suivant Edmond, comme on l'appelle au début puisqu'il n'a pas de nom, on suit celui qui fut à l'origine d'une grande découverte qui allait enrichir les propriétaires terriens qui vont tout faire pour le spolier de cette découverte. Edmond Albius, à peine âgé de 15 ans, allait réussir la pollinisation de la vanille, produit qui fera la richesse de l'île, alors que son inventeur allait mourir dans la pauvreté, non sans avoir fait un crochet par la case prison. 20 décembre, Chronique de l'abolition, est un récit passionnant car il permet de donner une place à cette île au sein du grand récit de l'histoire de France. On y découvre même que la bande dessinée était déjà présente à cette époque sur ce territoire. L'histoire que raconte Apollo est portée par le dessin expressif de TM, un dessin agréable qui colle parfaitement à ce récit grand public qui permet de découvrir un pan de l'histoire dans un ouvrage haletant et passionnant à lire. Alors certes, on peut être frustré que certains pans de l'histoire ne soient pas creusés plus en profondeur, mais un dossier en fin d'ouvrage permet d'en apprendre un peu plus à partir des recherches effectuées par le duo au moment du Covid en 2020 à La Réunion. Passionnant de bout en bout, l'ouvrage est disponible en librairie depuis le 5 janvier dernier, un titre que l'on doit aux éditions d'Argo et qui fut une très belle découverte et un gros coup de cœur pour ce qui me concerne. Pour la cinquième et malheureusement dernière fois, je vous emmène du côté de la ville thermale de Saint-Elme, là où violence, surnaturel, intérêt privé et histoire de gros sous se mélangent pour donner au final un cocktail explosif. Série captivante que l'on doit au duo Serge Lehmann pour la partie scénario et Frédéric Peters pour le dessin, nous avons donc, avec ce nouveau venu, baptisé les Thermopyles, une conclusion à la hauteur de cette série en 5 tomes. Bien entendu, ne comptez pas sur moi pour déflorer l'intrigue, tout ce que je peux vous dire c'est que l'on y voit plus clair sur cette histoire après avoir refermé cette conclusion, même si le duo entretient toutefois quelques mystères. Pour rappel, nous sommes dans une petite ville thermale envahie par les grenouilles, ville sur laquelle a mis la main la famille Saxe, aidée par Grégor Mazur, débarqué sur l'île dans le tome précédent. De l'autre côté, les frères Sangaré sont aussi présents sur Saint-Elme pour mettre la main sur Arnaud Cavalieri en compagnie de Dombre, une traque qui n'a pas été sans dégâts pour Franck Sangaré qui ressemble maintenant à une momie vivante. Sur les 4 premiers tomes, Lehmann et Peters multiplient les intrigues et les personnages qui auront le don de faire vivre cet endroit, bousculer le lecteur et créer une atmosphère étouffante dans cette cité qui pourrait être un havre de paix. Dans le dernier tome, comme on le pressentait, ce sont donc ces deux camps qui vont se faire face dans une scène dantesque qui s'étire sur plusieurs pages et qui permet à Frédéric Peters de faire admirer une dernière fois son sens du cadrage et ses couleurs saturées que le contraste du noir de la nuit met si bien en valeur. Comme sur les tomes précédents, c'est violent, intense, et le duo finit de dévider ses bobines de fil narratif pour le plus grand plaisir du lecteur que je suis et qui a fini par retomber sur ses pattes à la fin. Saint-Elme est au final une série qui vaut autant pour son scénario touffu, complexe par moments, mais surtout complet, que pour son dessin qui a du caractère, qui fait preuve d'originalité et qui sert magnifiquement cette histoire à tiroir. Véritable réussite, la série Saint-Elme se laisse donc lire dans son intégralité avec ce 5e tome, un titre sorti en librairie le 24 janvier dernier et qui se déploie sur 88 pages si l'on veut être complet. C'est en ex-Allemagne de l'Ouest, à la fin des années 70, que l'on se transporte maintenant pour le coup de cœur suivant, album qui nous vient d'une jeune autrice allemande, Jennifer Daniel, et que publient les éditions Casterman. Ça s'appelle L'Expert, et l'expert en question s'appelle Monsieur Martin, expert photographe dans un institut médico-légal, homme qui a dépassé la cinquantaine et dont la routine quotidienne bien huilée va s'en trouver bientôt bouleversée. En effet, Monsieur Martin voit passer à longueur d'année sur la table du médecin légiste des corps qu'il photographie afin de faire toute la lumière sur ce qui a bien pu amener ces personnes à finir sur cette même table. Mais par un malheureux concours de circonstances, notre cher monsieur Martin va bientôt se retrouver confronté au corps d'une femme dont la mort ne lui est pas totalement étrangère, comme nous le fait découvrir cette histoire rondement bien menée et passionnante à suivre. Difficile de vous en dire plus sans déflorer l'intrigue, mais le récit commence par nous dépeindre ce quotidien morne et un peu ennuyeux de ce personnage que l'on imagine sans histoire, alors que c'est loin d'être le cas. C'est que dans cette Allemagne des années 70, si le régime nazi commence à devenir un souvenir lointain, les hommes comme Monsieur Martin étaient forcément les soldats qui ont servi autrefois sous les ordres d'Hitler. Que ce soit en cauchemar ou dans le dédale de ses pensées, difficile d'oublier pour notre héros cette période de sa vie où la mort était déjà le lot du quotidien, mais une mort qu'il avait potentiellement au bout de son fusil. Dans la capitale ouest allemande de Bonn, toutes ces problématiques ne sont pas totalement réglées, c'est ainsi que sévit la RAF, mouvement terroriste d'extrême gauche, dont on suit certains de ses membres qui s'apprêtent à faire un coup d'éclat lors d'une réception à la chancellerie. Si les deux actions semblent dissociées, on verra avec le temps qu'elles vont se percuter dans un ouvrage où le dessin à l'esthétique minimaliste et rétro colle parfaitement à l'action qui est racontée dans cette histoire. C'est en partant de photos retrouvées dans les affaires de son grand-père que Jennifer Daniel, graphiste et illustratrice de formation, a imaginé cette aventure enlevée dans cette Allemagne qui s'apprête à connaître des années de plomb que soulignent les couleurs froides de cette bande dessinée. Faisant revivre cette période en 200 pages dans un ouvrage au graphisme singulier, elle nous offre là l'une des bonnes surprises de ce début d'année, un thriller efficace et emballant que je recommande chaudement. Comme toutes les deux semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, un titre qui, comme pour moi, se sera peut-être retrouvé au pied du sapin de Noël, car il est sorti en librairie le 22 novembre dernier. Cet album, c'est La Bombe, de retour en rayon dans une magnifique version collector qui, certes, coûte un peu cher, mais vaut véritablement le coup au regard de ses nombreuses nouveautés. Si vous êtes fidèle du podcast Le Bulleur, vous vous souvenez peut-être que j'avais présenté ce titre en détail dans le 42e épisode de mon podcast, mais cette belle réédition valait le coup que j'en parle une seconde fois. À l'extérieur, le premier changement notable, c'est sa superbe couverture rouge, couleur de la violence s'il en est, sur laquelle se détache en noir cette grosse bombe larguée par un avion et qui se précipite vers le sol. Plus grand de quelques centimètres par la taille, l'album s'enrichit aussi d'une cinquantaine de pages qui permettent de plonger dans les coulisses de la réalisation de cette magnifique bande dessinée. Voilà pour les détails techniques de l'ouvrage, entrons donc maintenant dans cet album événement pour revenir sur ce qui fait tout l'intérêt du titre, son histoire passionnante. La Bombe propose, à travers une histoire qui tient sur 450 pages environ, de nous raconter l'un des événements majeurs de la Seconde Guerre mondiale, l'invention de la bombe atomique et son largage sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945. C'est Didier Alcante qui a initié ce projet, lui qui a été marqué dans sa jeunesse par les vestiges de l'ancienne ville d'Hiroshima, ville que rase en quelques secondes cette bombe dont on voit les effets dévastateurs dans une scène saisissante en fin d'album. Pour ce projet, qui a pris 3 à 4 ans de travail en amont, il a collaboré avec Laurent-Frédéric Bollet sur un scénario touffu qui parle des hommes, des événements et de la façon avec laquelle cette bombe aura été mise au point. Nous entraînant des mines d'uranium du Katanga jusque dans les villes japonaises ravagées par cette bombe, on suit de l'intérieur cette invention qui aura changé la face du monde au XXe siècle. Côté dessin, c'est Denis Rodier qui s'est attaqué à ce projet titanesque, un dessin totalement retravaillé d'ailleurs pour cette édition, puisque le noir et blanc d'origine est ici relevé par un niveau de gris qui apporte profondeur et relief à cette histoire. Déjà sublime dans sa version originale, cette nouvelle version de la bombe continue donc de s'enrichir tant dans son contenu que dans son dessin pour apporter au final un album incontournable qui sera du plus bel effet rangé dans une BDTech. Superbe ouvrage paru dans la collection Millefeuille des éditions Glénat, la bombe est un pur chef-d'œuvre du 9e art et vous l'aurez compris, qu'importe son édition, voilà un titre que je recommande plus que chaudement. Ainsi se termine ce 168e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Bobigny 1972, un titre que l'on doit au duo féminin Marie Bardiot-Vaillante pour le scénario, Carole Morel pour le dessin et qui est édité chez Glénat. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Bulleur en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebulleur.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 12 février prochain, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.